les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Maître Alberno, de l'après-guerre aux années 70, fut ce qu'il est convenu d'appeler un ténor du barreau. Abolitionniste convaincu, il s'opposa ardemment à la peine de mort, notamment à travers trois ouvrages « Tu ne tueras pas »,« Contre la peine de mort » et « L'agonie de la peine de mort ». En 1945, commis d'office au procès de Pierre Laval, Alberno, qui avait été un résistant des premières heures, peu soupçonnable de la moindre sympathie pour Laval, ne manqua pourtant pas de dénoncer ce procès bâclé durant lequel fut bafoué le droit de l'accusé à être défendu. Cette expérience, Alberno l'a rapportée dans « Pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval » paru en 1948. L'idée que se faisait Alberno de sa fonction est peut-être bien résumée tout entière dans le titre d'un livre « Les défendre tous » paru en 1973. Quelques années plus tard, sur France Culture, Alberno répondait aux questions que se posaient Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault sur le métier d'avocat. Il le faisait avec l'éloquence et l'esprit, mais aussi la profondeur de l'un des grands maîtres en la matière. Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault reçoivent Maître Alberno, première diffusion le 5 avril 1974, réalisation Guy Delaunay.
Quand je pense à nos réunions du soir, je remarque que la plupart du temps, nous nous réunissons pour défendre l'homme, pour plaider la cause de l'homme. Et ce soir, nous avons demandé à Maître Alberno de venir nous parler justement de la plaidoirie pour les hommes. Il a fait un livre intitulé « Je les défendrai tous » et je crois que Maître Alberno va nous passionner par le récit de ces causes célèbres. Maître Alberno, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous rejoindre chez nous afin de passer quelques moments ensemble. Personnellement, le titre de votre livre me touche beaucoup. Il est le suivant, « Je les défendrai tous ». Votre vocation et la nôtre ont un point commun, c'est l'amour que l'on professe pour les hommes.
C'est vrai. Et vous, vous touchez peut-être plus largement les choses que je ne le fais. La justice et l'homme représentent à eux deux un microcosme, même si c'est un petit monde. Un petit monde avec une énorme machine dans ce petit monde qu'est la justice. Et en face de la machine, un tout petit bonhomme de rien qui est le justiciable que la machine peut écraser avec une facilité déconcertante et en même temps une facilité qui vous bouleverse parce que c'est tout de même de la cruauté. Alors l'avocat arrive là comme un bouclier entre ce petit homme faible et la machine. C'est la défense là, typiquement physique, pour ainsi dire. J'ai senti certains jours que la tête d'un homme que je défendais, c'était une chose physique, faite d'un total de muscles, d'eau, de nerfs, d'étincelles.
C'était vraiment la tête.
J'ai eu un jour un homme qui s'appelait Sartor, qui était un Corse, qui avait la tête du gladiateur. Il avait les cheveux coupés ras, beaucoup manquaient d'ailleurs. Il avait donc le dessin de la tête parfait, si je puis dire. Les cheveux encombrent la tête tout de même, ça enlève au crâne la forme qu'il a. Mais il n'avait pas de cheveux. Cette tête toute nue, forte, avec des grosses arcades sourcilières, les méplats, le nez droit, le menton volontaire, je la regardais.
Oui.
Je me disais, c'est terrible de penser que cette tête-là pourrait être séparée de ce corps. C'était vraiment physique pour moi. La défense prenait un tour presque médical, presque chirurgical, c'est abominable ce que je vous dis, mais c'était plus l'élan peut-être d'une passion en faveur d'un argument quelconque, c'était vraiment la défense de mon homme à moi, l'homme que j'aimais, que je voulais sauver de la mort.
Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, maître, de refuser une défense?
Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé très rarement du reste, car j'estime que moi je ne suis pas un avocat engagé. Je ne suis pas pour le crime parce que je défends le criminel. Comprenez, je ne suis pas engagé. M'est arrivé de refuser deux fois. J'ai refusé deux hommes de ce qu'on appelait la Gestapo française après la libération. Il y avait trop de sang. Entre eux et les Français, et moi je sortais tout frais de la résistance avec le parti pris que je pouvais avoir à l'époque. J'ai eu peur de moi-même. Je pense qu'aujourd'hui je défendrai.
Oui.
C'est
oui.
très curieux ce que je vous dis là, mais
non, c'est
j'étais
très
dans
juste.
Ma gangue de parti pris, d'indignation. Le goût de la vengeance chez moi était tout de même très net après la libération. J'avais été arrêté longtemps par les Allemands. Dans un réseau qui a été massacré presque entièrement, je suis parmi actuellement les trois survivants, c'est dire que nous avons été nombreux qui avaient à disparaître. C'était pas facile, alors j'ai refusé. C'est le seul cas, je crois.
Mais c'est une conduite subjective.
C'était parfaitement subjectif. Enfin. J'ai eu un problème, voyez-vous, étant très jeune avocat, c'est mon premier espion. C'était un espion allemand. Et je me rappelle m'en être ouvert à pas mal d'amis. J'avais Henri de Kérilis, que j'aimais beaucoup. Il me dit « Ah, faites pas ça, défendez pas ce bonhomme, c'est affreux contre la France. Ben, nous ne sommes pas en guerre d'abord, et puis ensuite, tout de même, il a servi son pays, il a peut-être ses mobiles, cet homme, ses raisons, il faut le défendre. » Campéki, qui était ministre de la Marine à l'époque, qui était mon patron, m'avait dit « Mais non, il ne faut pas le défendre. » Finalement, j'ai dit « Si, je le ferai. » Parce que alors, si je commence comme ça... Ma carrière va prendre une orientation nouvelle.
Mais si vous commencez par rendre la justice, c'est pas possible.
Voilà, c'est fini. Alors j'ai défendu, j'ai bien fait, je l'ai aimé beaucoup, c'est un type pas tant d'ailleurs, enfin, etc.
Et est-ce que vous devez vivre dans une angoisse affreuse pendant tout le temps que dure un procès?
Ouais, c'est surtout Madame Alain Renaud, après.
Après?
Oui. Car pendant, vous êtes vous battez.
Oui, on est dans l'action.
Il n'y a pas d'angoisse quand on se bat. Lorsqu'on a l'esprit. Et la musculature faite pour le combat, je pense que je suis assez fait pour le combat.
Oui.
Dans la bagarre, c'est pas d'angoisse, moi. Je cogne.
Oui.
Je fais tout ce que je peux pour que ça porte. Mais imaginons une peine de mort. Exécutée.
Oui, c'est effrayant.
Eh bien, croyez-moi, madame, le remords de l'avocat commence là. Et toute sa vie l'emportera avec lui, en se posant des foules de questions, en disant, mais... D'abord, est-ce que j'ai fait mon travail comme il fallait le faire? Est-ce que ce que j'ai plaidé là n'était pas mauvais? Oui. J'ai vu la gueule d'un juré. Il me semble bien que là, j'ai eu tort.
Oui, oui.
Ouais. Ah, et oui, puis, c'est... on se pose des questions, on s'en pose. Insolubles, qui toute la vie vous troubleront. Moi, me trouble, j'en ai comme ça derrière moi sept qui sont morts. Plus que ça, parce que enfin, tous ne m'appartenaient pas. Ça me trouble, j'y pense souvent, je me dis... Je me dis d'abord que si on les rejugeait, ils ne seraient pas condamnés à mort. Je me dis que le hasard commande la justice, que si à la même heure, on jugeait le même homme dans 92 cours d'assises françaises, il n'aurait pas 92 fois la peine de mort.
Oui.
Donc c'est une foutaise qui représente tout de même le hasard qui vient le jouer. Or le hasard ne doit pas jouer lorsque la tête d'un homme est en jeu précisément. Je suis donc contre la peine de mort, ça, j'ai pas besoin de le proclamer à nouveau. Mais c'est la suite qui est affreuse, parce qu'on se pose toute espèce de questions, notamment celle de savoir si on a fait ce qu'il fallait.
Oui, oui.
Vous comprenez?
Est-ce qu'il vous est arrivé aussi, c'est une question bien simpliste, maître, mais de défendre un homme ou une femme, enfin, que vous saviez coupable?
Ah, voilà un problème. Cette question m'est posée de temps en temps.
Oui, bien sûr.
En vérité, si vous étonnez, elle ne se pose pas. Ça doit être extrêmement rare. Moi, j'ai eu un cas, je vous dirais. En général, nous savons par le dossier que l'homme est coupable.
Oui.
Et il est exceptionnel qu'il s'entête à contester qu'il le soit.
Ah bon, il ne s'entête pas.
Par conséquent... C'est une question de dosage de la peine, de quantum de la sanction qui va se poser, en vérité. Mais le principe même de la culpabilité, j'ai eu un cas, un seul, un type qui avait aussi vieux comme histoire, qui avait volé un sac postal. Il était convoyeur au PTT et il chargeait du transport d'un sac postal tous les mois qui contenait l'argent pour l'asile des fous de la ville Évrard. Alors il y avait là-dedans des billets, 3 millions et quelques, ça se passe avant la guerre 39, 3 millions et quelques en billets, un étranglement, et le sac comportait un renflement au-dessus de l'étranglement contenant des pièces. Ça faisait 3 47 000 et des poussières. Et puis la voiture était conduite par ce convoyeur, mais avec un mouchard à bord, c'est-à-dire un appareil qui indique les pointes de vitesse, les arrêts, et l'arrière de la voiture ne peut pas s'ouvrir en marche. La voiture arrive à la ville Évrard, le receveur des PTT dit « Bonjour mon vieux, comment ça va ?» On décharge le sac, au revoir mon vieux. Michon, il s'appelait, je peux dire son nom, ça a été public. Michon repart. Et puis le receveur des PTT ouvre son sac, verse les 47 000 francs de pièces sur la table, défait la ficelle du premier étranglement, des journaux. Plein de journaux, 3 700 000 francs en journaux qui manquaient.
Un bon lecteur.
On l'a interrogé, réinterrogé, ce nommé Michon, qui niait éperdument, il niait éperdument. Puis un jour, il s'est passé un incident, tous les deux. Il m'a demandé si je voulais voir quelqu'un pour lui faire dire telle chose. Je peux dire ça, je ne viole pas le secret, je vais vous dire pourquoi. Je dis, Michon, écoutez, je suis jeune avocat, j'étais en deuxième année de palais. Vous n'avez jamais vu un jeune avocat plaquer une belle affaire, vous allez voir comment je fais. J'ai appuyé sur le bouton du parloir, j'ai dit au gardien, emmenez cet homme, c'est terminé, je ne suis plus son avocat. Je l'ai plaqué. Bien. Puis il a pris un autre avocat, bien entendu. Je ne critique pas le suivant. Il a été jugé en cour d'assises et acquitté. Et puis il s'est levé. Mesdames, messieurs les jurés, je suis content. Il m'avait fait un beau cadeau, car je suis coupable.
Ah, c'était...
L'argent est garé, je vais aller le manger tranquillement maintenant.
Oh non. Et alors, il n'a pas pu être à nouveau...
Ah, on peut pas, c'est pas possible en matière criminelle, il n'y a pas de révision contre le coupable, c'est pas possible.
C'est merveilleux.
C'est un très joli sujet de théâtre.
Ah, c'est joli.
J'ai souvent pensé que les avocats pourraient nous procurer des sujets de théâtre extraordinaires.
Oui, on n'est pas très bon pour le théâtre. J'ai remarqué, lorsqu'on essaie, moi j'ai... J'ai fait une pièce, vous voyez, par exemple. J'ai fait une pièce, je ne vous l'ai jamais montrée. Je pourrais vous la montrer un jour, si vous voulez. Et c'est même joué en Allemagne, en allemand.
Oui.
En allemand, mais pas en français. Ce n'est pas une occasion de faire jouer en français. Je ne sais pas si nous sommes tellement doués, parce que c'est un théâtre très particulier, le Palais de justice. Il n'y a pas de convention. Chez vous, il y a une convention.
Mais j'aimerais bien vous poser la question, après cette expérience que vous avez, et cette magnifique carrière... où vous êtes en... Vous vous coltinez avec la justice pendant depuis un certain nombre d'années. Et quels sont vos rapports intimes entre la justice et vous?
Voilà, il y a deux espèces de rapports, évidemment. Il y a des rapports très officiels, de courtoisie. On apprend ça dès qu'on est stagiaire. Voyons quelle est la formule. Je dois du respect à la magistrature... qui me doit des égards. On n'a pas voulu employer la même expression. Donc nous échangeons ce genre de bienfaits, des égards contre des respects et vice-versa. Puis, il y a le combat judiciaire.
Ah oui.
C'est là que commence l'abandon des égards et des respects pour vous placer tout de même, vous, avocat, en face d'un homme qui a ses vibrations personnelles, qui a ses petites misères, ces injustices accrochées au fond de son âme et qui va exprimer en jugeant. Il y a sa façon de questionner. Il y a son parti pris, que l'on devine, qui vous heurte. Et là, c'est beau, c'est une intimité, certes. Mais quelquefois violente, contenue, parce que les égards sont là, le respect est là.
Oui.
Le substratum de nos rapports demeure valable. Mais il est certain qu'il y a des haines qui montent parfois, qui partent de la barre vers le magistrat qui va juger. Et il y a le sentiment de la part du magistrat que l'on devine dans ses yeux que nous sommes là des gêneurs,
oui.
Qu'il aimerait bien qu'on n'y fût pas pour juger à sa façon.
Mais
c'est
il
là
aime
le
juger,
conflit.
Il aime juger et condamner, ce que vous appelez...
Vous savez,
qu'est-ce que
la
c'est
procédure française d'abord est accusatoire par sa tournure, si je puis dire. Elle part de l'idée... quoi qu'on en dise, que celui qui comparaît devant la justice...
est coupable.
Est coupable, car on dit le contraire, madame Renaud. Vous savez, on dit, il est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est jugé coupable. Je vais te faire fiche.
Tout homme est innocent avant
tout le respect que l'on doit à la justice, en vérité, le parti pris est très grand.
Oui.
La procédure accusatoire a un ton. Par exemple, tenez, l'interrogatoire. Je peux vous demander, vous avez, avec une forme affirmative interrogative, vous n'avez pas aimé votre mère. Il y a un point d'interrogation dans le ton. Mais c'est une affirmation dans la phrase.
Oui.
Vous étiez tout petit très méchant. Vous avez été un mauvais élève, point d'interrogation, toujours.
Oui.
Mais le pauvre type, ça part, ça passe, ça passe, ça passe. C'est ça l'accusation sous la forme d'une interrogation qui n'en est plus une, vous comprenez. Alors évidemment, l'avocat est là, qui se contient, qui s'indigne, qui ne peut pas encore intervenir, car on lui dira tout de même de rester à sa place. C'est là que l'intimité naît. Puis alors parfois, vous avez un magistrat extraordinaire, ça arrive, qui est objectif, qui cherche à connaître. Tenez, il y a un homme, je vais le nommer parce qu'il le mérite. Il y a M. Braunschweig, qui est un magistrat qui préside souvent la cour d'assises. Cet homme est étonnant, car il n'est jamais heureux s'il n'a pas disséqué au maximum l'homme qu'il va juger pour savoir vraiment qui il est.
Ah oui.
Là, nous avons affaire à un grand magistrat. D'abord, il est armé pour faire ce travail, il est très psychologue, très cultivé, puis prend son temps. Puis d'autres qui aimeraient peut-être faire le même travail que lui n'en sont peut-être pas capables. Ils n'ont pas le temps, ont une hâte de juger, d'en finir. Enfin bref, ils ont leur caractère, leur tempérament. Et il faut dire qu'exceptionnellement, émerge ce magistrat que vient de nommer par rapport à bien d'autres que je ne nomme pas, mais qui n'ont pas ce même souci. Enfin, voilà.
Oui, oui. Et alors vous parliez des cas de conscience des avocats après la condamnation, mais le cas de conscience du magistrat doit être très grand aussi.
Sûrement, je pense en ont, parce que quand je leur parle, vous comprenez, peut-être que demain nos rapports changeront avec la magistrature à cause de sa source qui est nouvelle. Autrefois, nous avions le même tronc, si je puis dire, le même arbre, et nous sortions sous forme de branches dans tous les sens. Certains jeunes confrères, nous étions tous avocats au départ, choisissaient la magistrature, d'autres choisissaient de rester avocats. Et puis la vie faisait le reste, on se rencontrait. Au détour, je le dis dans mon livre, au détour d'un couloir, comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais là? Ben je suis président, sans blagant, pardon, je me présente mes respects, mais non, je t'en prie, fous-moi le pec tes respects. Bon, c'était très charmant, on avait un plein pied extraordinaire. Je crains que la nouvelle école, qui comporte le mot national et le mot supérieur, il n'y a rien de pire que ça, des écoles qui ont ces deux mots ensemble dans leur titre, ne peuvent pas créer des hommes tout simples qui se croient d'une origine modeste. Ils sont certainement très fiers, ils ont raison, ces garçons, ces filles, de sortir de cette grande école. Mais il y a une petite distance qui se crée entre eux et nous. Ce sont des auditeurs, on les appelle comme cela pour l'instant.
Oui.
Alors on les voit dans le palais, chez un juge, ils assistent, muets, curieux à nos ébats, si je puis dire, à nos débats. Mais quand on tend la main, ils ne sont pas chauds pour tendre la leur.
Enfin, il y a deux camps qui se forment.
Il y a une distance qui se forme. Alors autrefois, on savait mieux ce qui se passait dans la tête d'un magistrat. Et pour répondre à votre question, combien m'ont dit après, « Ah, je suis encore troublé par cette affaire que tu as plaidé devant moi. Je me suis toujours demandé si on avait su la vérité, s'il n'y avait pas pire ou peut-être mieux que cela. » Il y avait cette femme qui avait joué un rôle, on n'a jamais très bien su. Voilà. Le magistrat se pose tout de même pas mal de questions, c'est normal, ce sont des braves gens, et des honnêtes gens, les magistrats, vous comprenez, ce sont des gens bien.
Est-ce que vous recevez naturellement énormément de confidences de votre client?
Oui,
ils se confient à vous, ils sont heureux de se confier à vous.
J'en ai eu dans ma vie deux fois, après coup. Ah oui, ça m'a troublé beaucoup, ça alors. Parce qu'il y a l'erreur judiciaire, madame Anne Renaud. Au-delà. Mais il y a aussi l'erreur judiciaire en deçà. Il y a le cas où la justice s'est complètement trompée et où le bonhomme a réussi à tromper l'avocat, la justice, et à s'en tirer mieux qu'il n'aurait dû.
Oui, oui.
Ça arrive, ça arrive.
Vous dites toujours l'homme.
Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour lui.
Mais vous dites toujours l'homme. Vous avez eu, il y a aussi des femmes criminelles.
Ah oui, j'ai eu une assassine, madame. Si vous voulez dire. Je dis ça dans mon livre. C'est au départ, justement, c'est ma première grande affaire criminelle, une femme assassin. C'est très rare. Qui avait tué vraiment pour voler.
Comment c'est très rare. Moi, je lis ça dans
le journal. Oui, la femme meurtrière n'est pas rare. Celle qui tue. Oui. Les gens sont pas rares, les femmes sont sanguinaires, mais on le sait, et tue facilement.
Attendez, alors quelle est la différence?
Mais la femme qui tue pour voler, qui va tuer une rentière, ça c'est très rare. La femme assassin, au sens
froid du mot,
notre code l'entend, avec un esprit de lucre, pour prendre le portefeuille, voler le coffret, prendre les bijoux, c'est très rare.
C'est plutôt passionnel, la
femme. Oui, en général, c'est plutôt passionnel. Les femmes, même si la passion est intéressée, si derrière l'idée de tuer le mari, il y a l'idée d'épouser un amant plus riche, c'est tout de même au moins semi-passionnel.
Ça peut
être à peu près admis. Bien. Eh bien, là, j'ai eu la femme assassin, évidemment, et je vous avoue que... Je dis une parenthèse, je reviendrai à mon idée, si vous me permettez. Une parenthèse. J'allais vers elle, c'était ma première affaire criminelle sanglante. J'étais en deuxième année de palais, je commençais tout juste, à peine même, j'étais en deuxième année. Et j'allais à la Roquette, c'était là qu'elle était, ma cliente. Et il n'y avait qu'une préoccupation en moi, est-ce que je vais lui serrer la main? Elle avait tué... la veuve du peintre Cormon, le grand peintre des empereurs, des rois. Il avait épousé son modèle, ce brave Cormon. Cette vieille dame avait 84 ans et hantait le boulevard des Batignolles sur des bancs. Elle aimait la pègre, elle aimait... Bref, elle avait connu ma future cliente, hélas, qui un jour est venue avec des gants de caoutchouc sous ses gants de suède, un stylet de manucure... Elle l'a égorgé, mais de 27 coups dans la gorge, effroyable. Enfin, vous imaginez ce que ça a pu représenter. Alors, je pensais à ça, j'ai cette main tout de même, je ne peux pas la serrer. Puis, je suis arrivé à la Roquette. D'abord, j'ai vu la mère Taurière qui était là, une brave bonne sœur. Ah, il me dit, maître, vous venez voir notre fille. Oh, je dis, ça va déjà mieux. On m'a mis en condition tout de suite. Alors, je suis arrivé, j'ai vu notre fille qui était là, qui m'attendait, en effet, avec une grande et belle main, qui m'a tendu. Je l'ai serré, il n'y a plus jamais eu de problème, ni à ce moment-là, ni depuis. Voilà, je ferme ma parenthèse et j'en reviens à cette question qui est tout de même une question importante que vous me posiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des aveux? J'ai eu une fois, deux fois, des aveux après le procès.
Après le procès.
J'avais sauvé un homme dans ce sens qu'il avait eu les travaux à perpétuité et non point la peine de mort. Parce que j'avais pu plaider avec les éléments du dossier, avec ce qu'il disait, des choses vraisemblables qui pouvaient écarter en une certaine mesure le côté crapuleux du crime. Et puis, quand ça a été terminé, je vais le voir le lendemain. Je dis, ben, dites donc, vous êtes sauvé, ça y est, ben, vous savez, on revient de loin. Il était vert. Il me dit, oui, je vous dois bien quelque chose, me dit-il. Il n'y avait pas d'argent. La vérité. Oh, je dis, écoutez, j'aimerais autant pas. Ah, si, je vais vous le dire. Ça m'embêtait. Et il m'a appris une chose abominable. C'est qu'en vérité, ils étaient d'accord avec le frère de la victime... pour tuer la victime, c'était un fratricide. C'était la peine de mort certaine. Si on avait mis le frère dans le coup, il l'y avait jamais mis. Donc il m'avait menti, avait menti à la justice, et a pu sauver sa tête parce que le crime a été jugé comme un semi-passionnel, entre ces deux hommes. Très curieux. Eh bien, j'étais furieux d'avoir eu cette confidence. Ça m'a embêté. Une deuxième fois, ça arrive. Mais après.
Oui, cette question de justice est pour nous passionnelle, justement, parce que lorsque nous pratiquons le théâtre, nous sommes toujours sous ce parapluie de la justice. Et pour nous, la justice, et là, vous allez m'examiner... Je confonds, en tout cas, je superpose la justice et la justesse. C'est-à-dire qu'au théâtre, c'est la vie qui est en cause. Et les hommes faussent la vie par leur démesure, si bien que le chariot de la vie risque toujours de basculer. Et quand les conflits sont remis en cause les uns contre les autres, l'issue des règlements de compte que l'on étale sur scène en épousant les criminels, en épousant les passions, en plaidant leur cause, a pour but final de rééquilibrer le chariot pour réajuster la vie par le décret de justice.
Oui, c'est pourquoi vous avez raison de dire que finalement, c'est ce que vous sous-entendez, un théâtre parfait aurait accordé et accorderait la justesse et la justice.
Exactement.
Il faudrait ça. Oui. Car il est bien certain qu'il y a une espèce de déséquilibre, de désordre dans la vie que l'homme y apporte avec ses mensonges, ses réticences. Il n'est pas tout nu, l'homme, jamais. Il a toujours ses petits trucs qu'il emporte avec lui.
Ce qu'il appelle ses raisons. C'est bonne raison.
Et vous êtes bien obligé, dans le théâtre, d'admettre les raisons de l'homme, ce qui est attentatoire à la justesse de la vision. Et ça devient d'autant plus grave que le but final que vous vous proposez est la justice du jugement.
C'est ça, c'est-à-dire que la confrontation de toutes ces mauvaises raisons qui vont les unes contre les autres a pour résultat final de rééquilibrer la vie. Oui.
Tandis que nous avons peut-être cette chance sur vous, je pense avoir souligné assez souvent dans ce bouquin, c'est que l'homme est très déshabillé par la justice avant de comparaître devant elle. Il y a une instruction qui est en France très bien faite. Pour dire la vérité, les juges d'instruction, je le dis, je profite toujours du micro pour le dire, ont à mes yeux le défaut d'arrêter trop facilement les gens et de les maintenir en prison. Il faudrait qu'ils s'en corrigent. Bon, cela étant dit, disons leur qualité. Leur qualité, c'est que ils sont minutieux, vétilleux, que vraiment, ils ne se contentent jamais sur l'approximative. Ils vont chercher très, très, très loin. Les instructions en matière criminelle durent quelquefois 2 ans. On s'en étonne, on s'en indigne, les gens sont mécontents, ils ont tort, finalement. Car on arrive à une quasi-perfection.
C'est consciencieux.
De la connaissance de l'homme qui va être jugé.
Oui, mais si le gars est innocent et il reste 2 ans pendant qu'on travaille...
On l'aperçoit avant, en général, tout de même. Il ne faut pas exagérer, non.
Parce que...
Oui, ça arrive. C'est là qu'est l'approximation de la justice.
Eh oui,
ça indigne. C'est que j'ai eu des cas d'hommes acquittés 2 ans après.
Ah oui, c'est ça.
C'est affreux, évidemment.
Bien sûr, c'est affreux.
Est-ce à dire qu'ils étaient tout à fait innocents, c'est moins sûr.
Oui.
Il est possible que la justice n'ait pas pu faire sa preuve de façon certaine. Puis on avait eu affaire à un juge étroit qui a maintenu en détention des magistrats qui ont été aussi étroits dans leur jugement. C'est bien certain que ce sont des hommes, ils commettent des erreurs. Mais enfin, rien ne vaut que par la règle générale. En toutes les matières, on ne peut pas, hélas, juger sur l'exception continuellement. En règle générale, c'est bien fait. Voilà. Donc la justesse des rapports est presque établie par l'instruction, et ça colle mieux avec la justice que l'on va rechercher lorsqu'on va se trouver devant précisément l'appareil judiciaire.
Est-ce qu'il y a des affaires que vous avez, comme nous acteurs, il y a quelquefois, on voit une actrice qui joue, moi je dis actrice puisque je suis une femme, qui joue un rôle et on se dit, oh tiens, elle a de la chance, j'aurais bien voulu jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il y a une affaire que vous n'avez pas eue par la force des choses, les hasards, etc., et que vous vous êtes dit, oh tiens, je l'aurais bien faite celle-là?
Ah oui, j'ai eu quelquefois des affaires, que, par exemple, tenez, tout récemment, je dois dire, c'est... très actuel ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez remarqué que devant la cour d'assises, récemment, a comparu une artiste autrichienne, Traudi, qui avait tué la femme de son amant et son enfant.
C'est ça, extraordinaire affaire.
Et j'étais moi...
C'est le vrai crime passionnel.
Pour la deuxième fois de ma vie, je ne suis jamais parti civil. J'étais l'avocat du mari.
Oui.
Qui avait dit, je ne veux pas que cette femme soit accablée, tant s'en fout, mais je ne veux pas non plus qu'on fasse mon procès à moi. Donc Maître Renaud viendrait me défendre, moi. Car je ne suis pas un salaud, j'ai peut-être été un salaud de mari, mais il faut me comprendre, j'ai fait vraiment mon métier d'homme avec beaucoup de difficultés, je l'ai peut-être mal fait, mais je veux que vous fassiez comprendre cela. Donc, J'étais en principe partie civile, me défendant bien d'accabler cette femme. Floriot était l'avocat de la femme. Eh bien, j'ai envié la place de Floriot.
Ça a dû être très beau.
Voilà, j'aurais mieux aimé avoir la sienne et défendre oui. Traoudi, car je sentais cette femme qui était un être affreusement criminel pour se faire tuer une femme, étrangler une femme, étrangler un enfant.
C'était affreux. Vraiment le vrai crime passionnel, ça.
Mais oui, justement, il fallait la comprendre, il fallait la sentir. Il est arrivé en France avec, c'était une Allemande, enfin une Autrichienne, avec son art germanique, son réalisme germanique, il peignait des choses horribles, des fœtus dans des ventres, des sexes pourris, enfin des trucs effroyables, n'est-ce pas? Il l'avait été éduqué, remis dans le chemin, il l'avait illuminé. Alors cette chute soudaine avait pu provoquer ce que nous savons. J'ai envié la place de mon adversaire.
Est-ce que vous avez envié, mais si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. L'affaire, alors également toute proche, de Bruet en Artois.
Ah ben, j'aurais aimé défendre ce notaire, moi.
Oui.
J'aurais aimé, d'abord parce que je n'aime pas les juges qui arrêtent les gens sans être sûr d'eux, et c'était le moins qu'on puisse dire dans le cas particulier que le juge n'était pas sûr de soi. J'aurais aimé t'en confier avec ce juge pour le sabrer auprès de l'opinion, et je pense qu'on y serait parvenu. Non pas que le notaire m'était tellement sympathique, Un notaire, c'est des braves gens, les notaires, mais enfin, ce ne sont pas des gens qui vous exaltent par le contact. Mais en fait, pour le principe, j'aurais aimé le défendre, c'est vrai.
Oui.
Écoutez, pour terminer cet entretien, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a, sur des plans tout à fait différents, comme dimension et comme qualité humaine, mais et qui ont une certaine homothétie entre eux, des êtres comme les prêtres, les avocats et les histrions.
Eh oui.
Nous sommes porteurs des fautes, des péchés et des conduites. Ouais. Et on en est tout imprégné sur notre costume. Une espèce de, en vous regardant, j'ai l'impression que vous avez tout un salpêtre de crimes sur vous que vous assumez, n'est-ce pas? Comme le prêtre assume sur sa robe tous ses aveux qu'il a reçus. Et comme nous, en tout petit, nous avons dans notre cœur et dans notre sensibilité, ce qui fait que quelquefois on est sujet à mépris parce que on a l'air un petit peu farfelu, mais c'est parce que on a trop de tendance à épouser l'autre.
Oui, même...
Et je crois que c'est ça la vocation de ces trois êtres, de ces trois vocations. Oui.
C'est vrai. Le fait de s'habiller, vous habiller. Oui. Dans le costume du personnage.
Oui, oui.
Moi, je prends ma robe, le prêtre à la sienne, enfin, provisoirement, semble-t-il. En ce qui est conscient, c'est plus douteux.
J'espère que je ne vous ai pas fâché en disant ça.
Non, pas du tout. Non, j'ai mon salpêtre, croyez-moi. Et puis, il est épais, comme vous avez probablement le vôtre aussi.
Oui, mais justement, une armure qui vous aide à avoir encore plus d'agressivité dans le combat.
Oui.
Maître Albert Nau était l'invité de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, une émission réalisée par Guy Delaunay, diffusée la première fois le 5 avril 1974 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.